Les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. L'investissement participatif peut-il participer, c'est le cas de le dire, à la relance de l'économie? C'est ce que nous allons voir cette semaine dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Plusieurs nouveaux projets sont prêts à recevoir des levées de fonds. Qui peut y participer? Quels sont les avantages? Et qu'en attendent les porteurs de projets? Nous allons en parler avec nos quatre invités. Amandine Durand, qui est co-gérante d'IFP Patrimoine. Nicolas Laurent, qui est associé fondateur d'Invest in Pacific et deux porteurs de projets. Pierre Dorchy de la société Digibar et Joël Dépujol de la société Agrilogique. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être faut-il préciser dès le début de cette émission, soit avec vous Amandine Durand, soit avec vous Nicolas Laurent, ce que c'est que l'investissement participatif, quel est son principe?
Bonjour, merci de me recevoir. Donc oui, Nicolas, cofondateur d'Invest in Pacific. Donc, l'investissement participatif, en fait, c'est le fait d'identifier des projets entrepreneuriaux locaux, concrets, de l'économie réelle, et par un acteur agréé, structuré comme Invest in Pacific, qui va transformer ce projet entrepreneurial en un produit d'investissement agréé par l'autorité des marchés financiers à destination des épargnants calédoniens. Voilà, donc c'est vraiment ça notre métier, nous, c'est de rencontrer des gens comme Pierre et Joël, d'identifier leurs projets, de le structurer et ensuite de pouvoir le transformer en un produit d'investissement.
Et donc tout ça est encadré, Amandine Durand, par des textes, enfin c'est tout à fait cadré, légal, autorisé et bordé.
Oui, tout à fait. Là, on est sur un produit financier qui est quand même très bien réglementé. On a l'autorité des marchés financiers qui vient structurer et organiser tout ça. L'idée, c'est de vraiment passer par une plateforme comme Invest in Pacific qui nous permet d'investir dans les sociétés, mais avec aussi un suivi des porteurs de projets et un suivi même... complet, hein,
tu fais... Complet, tous les mois, enfin, on est en lien permanent. Ouais. En fait, l'autorité des marchés financiers, donc, qui est le gendarme de la bourse, nous a... en fait, on a obtenu un agrément, après de longs mois de travail, pour nous permettre, en fait, de faire ça. Donc, c'est vraiment... Le cadre réglementaire est très structuré, très contraignant, puisque investir dans l'économie réelle comporte des risques. Ça, c'est quelque chose de très important. Et pour ça, il faut s'assurer... Moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, on n'a aucune certitude dans notre métier et on doit avoir le moins d'incertitude possible. Et pour avoir le moins d'incertitudes possible, il faut aussi avoir ces agréments et toute cette structuration.
Amandine Durand.
Après, ce cadre, il est là aussi pour les investisseurs, pour les rassurer, pour être là, pour les accompagner, pour pas leur permettre d'investir dans des sociétés sans avoir une prise de risque qui soit aussi importante que si on allait directement voir la personne, lui dire « j'investis en direct dans ta société ». Là, on a la plateforme qui est là justement pour réguler tout ça et permettre que tout fonctionne bien, aussi bien au niveau des porteurs de projets que les investisseurs.
Alors, on verra aussi dans cette émission qu'est-ce que ça apporte aux investisseurs
tout
de pouvoir s'engager dans ce type de projet. Mais avant cela, peut-être avec vous, Pierre Dorchy, revenir sur la démarche, puisque vous avez profité, vous, avec votre société Digibar, déjà d'une opération de participation de cette nature. C'est un choix de votre part d'avoir lancé cette procédure. Il n'y avait pas, pour votre projet, d'autres financements possibles. Et peut-être vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est Digibar.
Oui, tout à fait, merci. Donc Digibar, c'est une solution digitale, une solution cloud pour la gestion administrative des ordres des avocats. Donc qui a été créée avec le barreau Nouméa, donc c'est une initiative locale, dans l'idée de pouvoir la commercialiser par la suite à l'export, donc en Outre-mer et en France hexagonale. Donc ça a été créé en 2019 sur des fonds propres essentiellement, et puis lorsqu'on a souhaité mettre à l'échelle, effectivement passer le pas d'aller commercialiser en dehors de Nouvelle-Calédonie, il fallait qu'on poursuive nos développements informatiques. Ça coûte cher, une application, même si c'est gratuit sur les téléphones, quand on la développe réellement, ça coûte très très cher. Et puis commercialiser depuis la Calédonie vers l'Outre-mer, vers l'Hexagone, ça représente aussi un investissement non négligeable. Et on s'est retrouvé un peu bloqué, puisque...
Alors vous avez commencé par choisir par aller vers des partenaires que vous sollicitiez vous-même, c'est ça?
Oui, alors on a été accompagné par des établissements bancaires, mais dans une moindre mesure, on va dire, sur le lancement. Par la suite, pour faire une levée de fonds plus conséquente, comme celle qu'on a pu faire à près de 40 millions de francs, les banques ne sont pas les bons interlocuteurs. Et puis aller chercher des investisseurs privés ou des institutionnels hors du territoire, c'est très compliqué. On avait deux clients à l'époque, on était inconnus, en plus en Nouvelle-Calédonie. Donc on se retrouve un peu bloqué. Et c'est là qu'effectivement on a commencé à échanger avec Invest in Pacific, et ça nous a semblé la meilleure méthode pour pouvoir bénéficier de cet investissement. Et puis le faire avec des Calédoniens, puisque nous, tout ce qu'on perçoit en investissement, on le réinjecte directement dans l'économie calédonienne. Toutes nos dépenses de production sont sont faites en Nouvelle-Calédonie. Donc ça nous semble être une vertueux en termes d'organisation entre les investisseurs, nous, et puis les clients qui sont hors du territoire.
Un petit mot, vous avez évoqué la somme de 40 millions hein, de levée de fonds. Aujourd'hui, ça vous a permis vraiment de passer le cap que vous souhaitiez passer ?
Alors, on a fait une première levée à près de 40 millions, puis une deuxième levée à 25 millions. Donc ça a été fait à un an d'écart à peu près pour accompagner notre développement. L'idée aussi, c'est de rassurer les investisseurs. On n'investit pas forcément 80 millions d'un coup. Il faut aussi qu'on soit, nous, en mesure de prouver la réussite de notre projet. Donc c'est ce qui a été fait sur la première année. Et puis aujourd'hui, avec cette somme, effectivement, on a atteint nos objectifs. On a près de 20 clients aujourd'hui qui sont déployés. On vise les 40 l'année prochaine. Donc on est même au-delà des objectifs qu'on avait fixés avec les investisseurs. Donc c'est ce qui nous a permis d'aller plus loin et sans ça, on serait aujourd'hui un peu bloqué.
Alors comment les... Oui.
Pardon, sur en fait les 20 clients, ça représente, pour ce que disait Pierre Dorchif de Digibar, sur les 20 clients, en fait, ça représente 20 heures d'avocats, donc ça représente 2000 avocats, dont un seul de ces clients est en Nouvelle-Calédonie, les 19 autres sont hors de Nouvelle-Calédonie, donc on est vraiment sur une solution qui fait de l'export, et Pierre aime bien utiliser cette expression, il dit on développe au soleil et on vend à la pluie. Mmh. Voilà, c'est vraiment sur de l'export pur.
Tiens, puisqu'on parle de pluie et de soleil, Joël Despujol, on va parler d'AgriLogic, pour laquelle vous sollicitez vous aussi un investissement participatif, c'est la première fois que vous sollicitez ce genre de dispositif. Un mot aussi sur AgriLogic pour nous expliquer ce que c'est.
Donc voilà, Joël Despujol, je suis le fondateur d'AgriLogic, qui est une société d'import et de commercialisation d'agrofournitures sur le territoire depuis 1998. Nous installons des solutions pour les professionnels du maraîchage, des serres, des systèmes de culture hors sol, donc depuis bientôt 30 ans, hein, sur le territoire. Et donc, l'état de la technique à l'échelle mondiale, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, n'apportait pas satisfaction en termes d'outils, en termes de solutions pour que les Calédoniens puissent produire toute l'année, etc., etc., des légumes. On connaît tous la problématique de la saison chaude pour avoir de la salade, de la tomate, etc. Et donc, ne trouvons pas sur le marché les solutions. On les a innovées, on les a développées et on a trouvé deux solutions importantes qui, d'une part, une gouttière hydroponique, une multifonction, qui permet de produire avec le même contenant, le même outil, quasiment tous les légumes possibles et surtout en conditions très chaudes. Mmh. Donc, grâce à l'agoponique, aujourd'hui sur le territoire, on a installé 200 km de goponique et depuis 3 ans, il y a plus de salade d'import sur le territoire.
Mais alors pour pouvoir développer ces solutions et aussi les mettre en œuvre, vous avez besoin de financement. C'est pour ça que vous êtes tourné vers le financement participatif.
Tout à fait. Alors, il y a une on a fait fonds propres, sur l'autofinancement, les dépenses de brevets, l'achat de moules industrielles, etc. Donc, effectivement, première opération sur fonds propres, on l'a exporté. À l'extérieur, on a exporté goponique sur les toits de Paris. C'est nous qui avons installé tous les projets d'agriculture urbaine sur Paris, le toit du parc des expositions de la Porte de Versailles, etc. Et donc, on s'est un petit peu épuisé financièrement à se lancer dans l'export sur fonds propres. Et puis, on a lancé une deuxième innovation il y a 3 ans qui s'appelle Agrinéa, qui est une serre fermée. Et oui, là aussi, il a fallu des moyens. On avait répondu à pas mal de concours, d'innovation, etc., où on a eu des prize money qui nous ont permis de compléter notre autofinancement, autofinancement par les banques, etc. Voilà. Et le modèle économique jusqu'à 2024, c'était avec ce qu'on fait sur le territoire, on va pouvoir s'autofinancer Nexport. Nicolas Laurent d'Investing Pacific nous accompagne et nous suit depuis 2 ans. Il nous dit mais les gars. Vous devriez peut-être un petit peu regarder le financement participatif, etc. Et nous, on est une structure familiale. Faire rentrer des investisseurs, c'était pas forcément dans notre ADN. Et voilà. Et puis après, il y a eu 2024. Et là, après 2024, tous les projets calédoniens ont été mis entre parenthèses. Et là, le modèle économique a nécessité de trouver d'autres formes de financement.
Alors, on va parler évidemment de l'accompagnement parce qu'il est important, on le comprend bien dans la démarche. Mais avant cela, je me retourne vers Amandine Durand ou Nicolas Laurent pour savoir comment les projets sont retenus. J'imagine que vous êtes quand même pas mal sollicité. Est-ce qu'il y en a que vous refusez ? Quels sont les critères pour que les projets portés par les chefs d'entreprise qui viennent vous voir soient éligibles et soient placés sous ce régime du financement participatif.
Alors, en effet, on refuse beaucoup de projets. En moyenne, on accompagne un projet sur 13 qui nous est présenté. Donc, nous, notre objectif, en fait, c'est de trouver des porteurs de projets qui ont une vision. En fait, on a un triptyque qu'on appelle le triptyque magique sur lequel il nous faut des porteurs de projets. On se base sur l'humain. Voilà, est-ce qu'on a des humains qui sont compétents? Puisque l'humain, c'est souvent ce qui pose problème au sein d'un projet. Est-ce qu'il y a un vrai besoin, un vrai marché? On part toujours, nous, de la demande et pas de l'offre. Est-ce que l'offre vient répondre à un besoin? C'est très important parce qu'on se rappelle qu'on défend, nous, in fine, l'intérêt aussi des investisseurs. Et donc, les investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est un retour sur investissement. Et pour ça, il faut être certain qu'il y ait bien un marché. Et le troisième pilier qui nous fait choisir un projet, c'est est-ce que ce projet est bien structuré? Est-ce qu'il est bien pensé? Ce qui est le cas, là, on vient de voir Pierre et Joël, quand ils nous présentent leur projet, c'est des projets sur lesquels ils ont travaillé pendant des années en amont. Nous-mêmes, après, on accompagne pendant des années. Souvent, entre le moment où on rencontre un porteur de projet potentiel et le projet va sortir, il peut se passer 2 ans.
Voilà. Alors, comment sont fixées les sommes nécessaires? Prenons votre exemple, Pierre Dorchy, puisque vous avez, vous, déjà participé à 2 reprises, si j'ai bien compris, à cette levée de fonds. Est-ce que les sommes sont discutées avec la structure qui vous accompagne? Est-ce que c'est vous qui sollicitez un montant? Est-ce que... Comment ça se passe?
Alors, on part d'un besoin. Nous, on fait des projections en disant si on va atteindre cet objectif-là dans 1 an, dans 2 ans, il nous faut tant d'investissements pour la partie commerciale, pour la partie production, pour le support, etc. Donc, on définit nos postes de coûts avec un plan de trésorerie en fonction de ce qu'on espère gagner aussi à côté, évidemment. Et donc, nous, on vient avec un besoin. Alors, qui peut être challengé par Investing Pacific, évidemment, en fonction de l'expérience, et on est heureux d'échanger avec toute personne qui peut venir peaufiner ce modèle qu'on a mis en place. Mais derrière, c'est surtout, par rapport à ce besoin de financement qu'on a, combien on va céder de parts dans notre société. Parce que l'objet, c'est bien ça, c'est qu'à un moment, on remet entre les mains d'Investing Pacific et des investisseurs calédoniens une partie de notre entreprise. C'est valorisé. Si j'ai besoin de 20 millions, ça représente 5, 10, 15, 20, 30% de mon entreprise. Et c'est là qu'il y a une discussion, parce qu'on va se baser sur nos objectifs. Alors, ce qu'on dépense, on le sait à peu près, et on va réussir à le dépenser. En général, ça se passe plutôt bien.
Dans ce sens-là, c'est assez facile, généralement.
En revanche, c'est combien on va gagner grâce à ça. Et c'est là que les discussions peuvent être assez longues, et c'est challengeant, et c'est intéressant, parce que ça nous remet aussi en cause dans notre modèle. Et si on se rate, certes, les investisseurs vont perdre leur argent, mais nous aussi, on va perdre notre argent, et on en investit beaucoup personnellement. Donc, c'est très intéressant de pouvoir échanger avec eux pour fixer justement cette bonne valorisation.
Alors, bonne valorisation et aussi bonne destination, parce que quand je regarde, par exemple, le projet AgriLogique, Joël Despujol, on s'aperçoit que la levée de fonds que vous sollicitez, je crois que c'est 66 millions de francs, elle est destinée à consolider votre déploiement sur les marchés d'outre-mer. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qu'on vous donne en disant débrouillez-vous, il y a déjà une somme qui est affectée en quelque sorte.
Bah, c'est ce que, en fait, exactement ce que vient de dire Pierre. Hein, c'est-à-dire que nous, on a un prévisionnel avec une stratégie commerciale qu'on s'est fixée, on a des acquis, on sait aujourd'hui d'où on part et on sait où on veut aller dans 5 ans, on sait combien ça va nous coûter. On sait ce qu'on ne pourra pas financer, et c'est ce qui fait l'objet de l'évaluation de la levée de fonds. Voilà. Maintenant, comme Pierre vient de le dire, jusqu'à quelle hauteur on accepte de faire rentrer un investisseur dans la société. Ouais, donc il y a un équilibre à trouver, et puis je ne vais pas redire ce qu'a dit Pierre, ouais. Il a dit exactement ce pourquoi on est là-dedans. Quoi.
Nicolas Laurent.
Nous, Investing Pacific, en fait, on est sur un bateau avec les porteurs de projets qui sont le capitaine du bateau. Et on définit en fait la marche à suivre et on est un petit peu le pilote à côté qui tenons la carte et qui rappelons, on s'était dit qu'on irait dans telle direction. Attention, on a mis la barre un peu à droite, là un peu à gauche. Donc on essaie d'atteindre, je parlais de certitude, incertitude. Nous, il faut qu'on ait le moins d'incertitude possible. Donc tout ça, quand on entre dans une société, on va signer un pacte d'associés. Donc il y a un contrat de mariage avec une promesse de divorce. Parce que notre objectif, c'est de sortir. Et nos investisseurs, eux, veulent sortir. Ils veulent mettre leur argent. Et on leur propose jusqu'à une sortie d'ici 5 à 6 ans, si tout se passe bien. Et on annexe à ce pacte d'associés, en fait, un business plan et un plan de déploiement. Voilà. C'est vraiment très, très encadré. Maintenant, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'économie réelle. Toujours le risque que ça ne se passe pas exactement comme c'était prévu.
Alors, ça se passe jamais comme prévu.
Ah oui, il faut s'adapter.
C'est un petit peu aussi le charme de l'activité, d'une certaine façon. Alors, on a parlé de l'intérêt, on l'a bien compris, pour les sociétés de faire appel au financement participatif. Il faut peut-être parler avec vous aussi, Amandine Durand, des effets pour les investisseurs. Parce que pour qu'un investisseur investisse ou accepte de rentrer dans un projet comme ça, il faut aussi qu'il y retrouve son intérêt. Alors, qu'est-ce que ça apporte pour un investisseur de participer comme ça à ce type de levée de fonds ?
Alors déjà, nous, dans le cabinet IFP Patrimoine, on fait vraiment du conseil. Hein. Principalement, on est là pour accompagner les Calédoniens, que ce soit sur plusieurs thématiques, hein, aussi bien de la préparation à la retraite, protection de la famille, préparation des études des enfants, etc. Et on voit plutôt l'investissement participatif comme une brique supplémentaire dans notre construction globale d'une stratégie sur le long terme. Les clients viennent avec des objectifs, avec une situation particulière. Nous, on détermine ensuite un profil de risque, hein, c'est-à-dire jusqu'où l'investisseur est prêt à aller en termes de prise de risque. Et notamment, là, on parle d'un produit. Hein, l'investissement participatif, c'est quelque chose qui est quand même très risqué. On rentre au capital d'une société. Donc tout ça, ça se mesure pour essayer de faire un projet qui soit vraiment sur mesure pour l'investisseur et non pas mettre, comme on dit, tous les œufs dans le même panier. Hein. Ça vient dans une stratégie de diversification. Et puis c'est important, je trouve que c'est important de soutenir l'économie calédonienne.
Oui, alors moi je suis par exemple un investisseur, je me dis tiens, je vais aller dans un projet participatif, je regarde un petit peu les projets sur lesquels il y a des appels aujourd'hui, mais la question que je vous poserai si c'était le cas, c'est quels vont être les avantages pour moi ? Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux ? Est-ce qu'il y a une rentabilité annoncée ? Ou est-ce que c'est sur du long terme et qu'il faut s'armer de patience pour savoir un peu comment ça va évoluer ?
Alors il y a deux types de personnes qui peuvent faire l'investissement participatif, et parfois les deux sont complémentaires. On va avoir des gens qui vont aller chercher de la performance et qui vont dire « moi j'ai envie d'avoir beaucoup de performance ». Et effectivement, on est sur un marché très risqué, on est sur du private equity, hein, ce qu'on appelle chez nous. Donc on rentre au capital d'une société. Donc, effectivement, il y a la possibilité de tout perdre, mais c'est quand on a une possibilité plus on a une prise de risque importante, plus effectivement on a un potentiel de rendement qui est important. Et le deuxième parti, c'est des investisseurs. Là, on va toucher la corde sensible sur vraiment l'engagement des investisseurs. On parle de projets comme AgriLogique, comme d'autres projets qu'on a en ce moment. C'est des sujets qui sont en responsabilité, qui sont là avec de l'économie locale, pour faire participer les Calédoniens dans leur économie, etc. Et donc ce côté engageant, et on a aussi beaucoup de critères RSE, etc., ça peut venir aussi jouer.
Nicolas Laurent.
Aussi très important, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a anticipé ça, en fait, veut stimuler l'investissement dans les entreprises locales, donc a mis en place depuis 2019 une loi, en fait, la loi de pays 136-9 du Code général des impôts, qui incite les Calédoniens à investir dans les entreprises calédoniennes au travers d'une plateforme comme Invest in Pacific. Et quand un Calédonien met jusqu'à 3 millions de francs pacifiques dans le capital d'une société calédonienne, il bénéficie de 50% de réduction d'impôts.
Il y a un risque à terme, mais il y a quand même des avantages fiscaux.
Il y a un vrai avantage fiscal.
Dès l'engagement financier.
Et là, je tiens à saluer l'innovation fiscale du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Parce que nous, Invest in Pacific, on bouge beaucoup sur tous les territoires ultramarins. C'est en Nouvelle-Calédonie qu'il y a ce dispositif le plus puissant. Qui est un vrai argument pour les Calédoniens, de se dire, de manière très concrète, un Calédonien qui aurait 500 000 francs d'impôts à payer, s'il met 1 million de francs pacifiques, par exemple, dans la société AgriLogique, il n'aura plus d'impôts à payer. Donc, d'une certaine manière, alors c'est vraiment du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie accepte, en fait, de renoncer à une recette fiscale à un instant T. Mais l'objectif, c'est de se dire, AgriLogique, grâce à ça, va recruter localement. Donc avec ça, va payer des cotisations CAFAD, va payer de la TGC, va payer de l'impôt sur les sociétés, ainsi de suite. Donc ce que le gouvernement abandonne tout de suite au profit des investisseurs, donc ces 500 000 francs, par exemple, qu'ils auraient abandonné de recettes fiscales sur l'impôt sur le revenu, il va le retrouver grâce à la performance que va générer la société comme AgriLogique, par exemple. Ce qui est le cas de Pierre Dorchy, il disait, tous les fonds qu'il a levés ont été dépensés en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, clairement, c'est de l'impôt différencié pour la collectivité.
Oui, Amandine Durand.
C'est hyper important, cette partie fiscale, mais pour moi, ça reste vraiment la cerise sur le gâteau. On est vraiment sur des projets qui sont déjà très aboutis, qui ont été structurés en amont, et je dirais même que s'il n'y avait pas cet argument fiscal, on irait quand même sur ces sociétés-là, parce que c'est novateur, parce qu'il y a une vraie histoire derrière, et donc on a vraiment envie d'y aller. Effectivement, c'est un plus pour les investisseurs d'avoir cette réduction fiscale. Mais pour nous, c'est vraiment le supplément, quoi.
Pierre Dorchy, vous qui avez bénéficié de cet accompagnement et de ces levées de fonds, est-ce que vous avez en tête, finalement, même si vous ne les connaissez pas, tous ces investisseurs qui vous ont fait confiance, est-ce que de temps en temps, vous dites, je n'ai pas un devoir de résultat, mais il y a quand même des gens qui m'ont fait confiance et ça m'oblige d'une certaine façon?
Alors oui, c'est assez vertigineux, effectivement. Avec la première levée de fonds, c'était une soixantaine d'investisseurs, la deuxième à peu près 40, donc ça fait une centaine de personnes qui ont investi, des Calédoniens que je peux croiser en faisant mes courses ou je ne sais pas, à la plage. Et c'est assez vertigineux, effectivement, d'avoir des gens qu'on ne connaît pas forcément, qui eux nous connaissent, mais pas personnellement, uniquement au travers du projet, qui nous font confiance, qui nous confient comme leur argent, et c'est extrêmement responsabilisant. Et ça nous donne encore envie d'aller plus loin. Alors c'est vrai que moi, personnellement, j'ai investi avec ma famille des fonds dans le projet, hein, c'est bien normal. Mais le fait de savoir qu'il y a des personnes extérieures qui croient en nous et qui nous accompagnent, ça, c'est une énergie supplémentaire. L'argent, c'est une chose, mais oui, après, j'ai déjà croisé des gens dans la rue que je ne connaissais pas, mais ils se sont rendus compte que j'étais le porteur du projet Digibar et on a pu échanger sur le sujet. Et c'est extrêmement valorisant pour les uns et les autres.
Alors, vous vous lancez dans cette aventure, vous, Joël Despujol, hein, puisque vous êtes au début de cette levée de fonds, on l'a dit, 66 millions de francs. Est-ce que dans le cadre qui est fixé avec ceux qui vous accompagnent, notamment Invest in Pacific ou d'autres, est-ce qu'il y a une durée qui est mise en place? Est-ce qu'on se fixe une durée? Est-ce que le montant maximum, si par hasard il est dépassé, qu'est-ce que vous faites?
Alors ça, c'est très contractuel, hein, et c'est plutôt Nicolas qui pourrait le décrire mieux que moi, parce que je peux peut-être dire des bêtises, mais contractuellement, à partir du moment où la levée de fonds est déclenchée sur la plateforme, on a contractuellement 6 mois pour faire la levée de fonds. C'était ça la question, hein?
Oui, c'était ça. Okay. Oui, oui.
Donc on a donc 6 mois, mais si dans 48 heures la somme espérée est atteinte par les investisseurs, voilà, c'est en fait au plus vite les investisseurs se manifestent et au plus vite.
Mais au bout de 6 mois, même si la somme n'est pas atteinte, la plateforme se referme.
Alors si la somme n'est pas atteinte, là il y a des bémols. Il y a un plus ou moins abandon selon le gap qu'il y a entre l'objectif et ce qui a été réalisé. Je te laisse reprendre parce que tu seras
Nicolas Laurent. En fait, on fait des investissements sous forme de tranches. Enfin, pardon, on a soit un plancher, soit un plafond. Voilà, donc généralement, le plancher, on l'atteint assez facilement. Faut savoir qu'aujourd'hui, nous, Invest in Pacific, c'est 1700 Calédoniens inscrits sur la plateforme. Aujourd'hui, on a plus d'investisseurs potentiellement que de porteurs de projets. Donc, et d'ailleurs, les auditeurs, s'ils nous écoutent et qu'ils sont intéressés, je les invite à se manifester assez rapidement parce que, nous, on l'a vu, on est une société polynésienne. À l'origine, on a été créé en Polynésie française. En Polynésie, on a 4000 inscrits sur la plateforme. Certaines opérations, quand on les met en ligne, en 48 heures, elles sont parties. Ce qui a été le cas de Digibar, de la deuxième levée de fonds, en 48 heures. Donc, moi, je croise aujourd'hui des gens. Moi, c'est l'inverse. Ils me disent... Zut, j'ai loupé Digibar, je voulais être dessus, faut me prévenir plus tôt. Donc les 6 mois, clairement, on n'aura pas besoin d'autant de temps pour lever. Et surtout, très important, par rapport à l'avantage fiscal, si les Calédoniens veulent bénéficier de ce dispositif, il faut qu'ils investissent avant le 31-12. Sinon,
avant la fin de l'année. Hein.
Avant la fin de l'année. Donc là, je les invite vraiment à se tourner, soit aller sur notre plateforme
www.investinpacifique.com
ou d'appeler IFP Patrimoine pour prendre rendez-vous rapidement. Parce que nous, hier, on a organisé une grande soirée d'investissement participatif calédonien à la station N. On était 150. Durant après, on a fait un petit cocktail. C'est impressionnant le nombre de Calédoniens qui sont venus nous voir et qui nous disent « Tiens, moi, je veux mettre 1 million, je veux mettre 500 000. » Donc, si on veut vraiment bénéficier de ça, faut pas tarder.
Alors, autre question que n'importe quel investisseur pourrait se poser. Je décide d'investir, de participer à cette levée de fonds. Ça m'engage à quoi? Sur une durée? À retrouver mon capital? Si je veux le récupérer, est-ce que je peux? Comment les choses doivent se passer?
Donc, on entre, comme je disais, sur une durée de 5 à 6 ans. C'est bloqué. Plus y toucher. On ne rentre pas directement dans le capital de la société, mais nous, on va constituer ce qu'on appelle une holding d'investissement participatif dont l'objet social unique, c'est de regrouper les investisseurs et de faire une prise de participation dans le capital. Le président de cette société, de cette holding d'investissement participatif, c'est Invest in Pacific. Voilà. Donc nous, on est au comité, au sort de comité stratégique de la société en question, et on va prendre des décisions majeures, vraiment, qui impliquent et la société et les investisseurs pour les protéger. On les prend collégialement avec les fondateurs, les associés fondateurs et Invest in Pacific. Toujours, nous, dans le but de protéger, d'accompagner et l'intérêt de la société et l'intérêt des investisseurs. Et l'objectif, c'est de définir en fait des scénarios de sortie dans 5 à 6 ans et en se disant, voilà, quels sont les scénarios les plus plausibles de sortie dans 5 à 6 ans. Donc pour Digibar, ça va être un certain scénario. Pour Agrilogic, qui est une société familiale, ça va être un autre scénario. Et au bout de 4 ans et demi, on va déjà commencer à se rencontrer avec les porteurs de projets. On va dire, bon, voilà, on avait prévu ça comme scénario, il faut qu'on sorte. Tout à l'heure, c'était une petite boutade quand je disais, oui, c'est une promesse de mariage avec avec une promesse de divorce. C'est vrai, on doit sortir. Donc après, les conditions dans lesquelles on sortira et le prix auquel on sortira, si on a bien fait notre job, tout le monde, normalement, on sortira dans d'excellentes conditions et pour les porteurs de projets et pour les investisseurs. Si ça s'est déployé de manière un peu plus négative que ce qui a été prévu, malheureusement, la valeur sera potentiellement plus faible.
Pierre Dorché, est-ce que vous êtes déjà dans cette phase d'envisager la sortie ou c'est encore un peu loin ?
Non, pas encore. Là, on finit la deuxième année de la première levée de fonds. Donc, il nous reste encore 3 ans. Mais comme, effectivement, on a surpassé nos objectifs, nous n'avons pas d'inquiétude au niveau de la sortie. Puisque lorsque nous allons devoir racheter les parts qui ont été cédées à l'époque, si l'entreprise fonctionne, nous n'aurons pas de difficulté à ce moment-là, soit à trouver des investisseurs privés d'autres, ou un financement bancaire, ça se fera sans difficulté. Donc pour nous, l'avenir est plutôt radieux, il n'y a pas de souci.
Joël Despujol, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Bah là, c'est pareil, hein, il faut avoir une boule de cristal aussi pour pouvoir se projeter, et c'est vrai que nous, on est sur un marché avec beaucoup d'inertie. Quand on signe, quand on donne un devis pour un hectare de serre, on aura peut-être un jour la réponse et ça peut être 1 an, 2 ans avant d'avoir le dossier ficelé. Donc nous, c'est un petit peu différent. Néanmoins, effectivement, toutes les projections qu'on a évaluées, etc., nous amènent à penser que dans 5 ans, dans 6 ans, le chiffre d'affaires que l'on prévoit nous permettra de faire le rachat pour des investisseurs, enfin de la holding interposée, et de se retrouver en famille comme avant. Mais avec effectivement une dimension qu'on n'aurait pas pu atteindre si on n'avait pas eu cette levée de fonds. Pour nous, c'est l'étincelle. C'est l'étincelle qui nous permet de faire partir un navire chargé de données, chargé de preuves de concept qui aujourd'hui est dans les tiroirs.
Pierre Dorché.
C'est vrai que le côté temporaire de l'investissement, enfin de l'entrée d'Invest in Pacific, des investisseurs locaux, c'est important parce qu'à terme, si notre projet fonctionne, on est sûr de récupérer la main et de redisposer de l'ensemble du capital pour faire évoluer la société peut-être de façon différente. Mais oui, le côté temporaire est pour le porteur du projet en tout cas un argument de poids.
Dans tous les cas, c'est un pari sur l'avenir, mais un pari qui est quand même encadré, si on a bien compris, et qui est bien anticipé, Nicolas Laurent.
Oui, justement, en fait, l'investissement participatif, ce n'est que la rencontre de deux besoins qui sont côte à côte et qui ne se rencontraient pas en Nouvelle-Calédonie, à savoir l'excédent de trésorerie d'épargne de certains épargnants calédoniens et le besoin en fonds propres d'entrepreneurs comme Joël et Pierre. L'économie, que ce soit en France de manière générale et en Calédonie, enfin dans les territoires ultramarins en particulier, est toujours financée surtout, enfin quasi exclusivement par de la dette bancaire ou de la subvention des fiscs. Et on est des territoires où il n'y a quasiment pas de ce qu'on appelle de haut de bilan, donc de finance directe. Vous avez la finance indirecte, vous déposez votre argent à la banque et la banque la reprête à l'économie réelle. Mais il n'y a pas de finance directe. Et Invest in Pacific, c'est ça. C'est une solution de finance directe qui permet vraiment à ces deux besoins, côte à côte, de se rencontrer dans un cadre structuré, régulé et sécurisé.
Alors pour terminer, quand même, un petit mot. Il y a combien de projets aujourd'hui en cours ? Les Calédoniens qui sont intéressés donc, doivent s'inscrire, on l'a bien compris, sur la plateforme dont vous nous donnerez peut-être
Investinpacific.com.
Voilà, mais il y a combien de projets aujourd'hui qui sont accompagnés ou qui sont en cours Amandine Durand ?
Aujourd'hui, on a 3 projets
nouveaux.
Nouveaux projets, oui. On a 3 projets. Donc, le premier, effectivement, c'est Agrilogic avec la famille Despujol. On a un deuxième projet qui est la Casse du Miel, qui est là le but de faire une filiale, une filière miel sur le territoire.
Avec Paul Mekwang.
Exactement. Avec des locaux. On est sur un groupement déjà de personnes. Hein, et donc, avec des ruches connectées à déployer chez les apiculteurs. Donc ça, c'est plutôt des projets dans lesquels on va mettre du sens dans notre investissement, hein, et ça, c'est important. Je pense que dans nos jours et dans nos années qu'on vient de subir, c'est bien de remettre du sens dans les investissements et de reconnecter les Calédoniens entre eux. Et on a un dernier projet qui est SoBlue, porté par Atem Belagi.
Dont on connaît l'investissement dans l'investissement
exactement,
participatif.
Hein, exactement. Voilà.
qui est là plutôt une solution de logiciel pour faire de la gestion stock, de la gestion d'entreprise, de la facturation, etc.
Ça, c'est des nouveaux projets. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont en cours et qui courent?
Oui, alors aujourd'hui, avec ces trois projets, on atteindra 10 projets en tout, financés en Nouvelle-Calédonie, pour un total d'1,5 milliard de francs pacifiques. Ça correspond grosso modo à 250 à 300 emplois créés localement.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans cette émission pour nous parler de cet investissement participatif. Et les auditeurs, on l'a bien compris, s'ils sont intéressés, peuvent se rendre sur le site que vous avez nommé.
www.investinpacifique.com ou ils peuvent appeler le standard d'IFE Patrimoine aussi.
Au 25 12 13.
Voilà, tous les messages sont passés. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans cette émission qui sera évidemment disponible en réécoute pour ceux qui le souhaitent. Dans un instant, je vous souhaite une belle après-midi.